Cette semaine, dans les conversations avec Daniel Haber, on se pose une question, celle de savoir si le MOU est vraiment terminé, comme le dit Donald Trump. Voici donc Daniel Haber, géopolitologue. Il est au micro de Blaise van der Linden.
Daniel Haber, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors Daniel, cette semaine, les frappes ont repris, hein, que ce soit du côté américain ou que ce soit du côté iranien. Les Américains ont touché quelques cibles iraniennes et les Iraniens, eux, ont carrément étendu jusque dans les pays du Golfe. On a beaucoup parlé de ce fameux Memorandum of Understanding. Alors Daniel, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il est terminé, comme l'a dit Donald Trump cette semaine?
Alors, personne se risque à dire qu'il est terminé, parce qu'au fond, tous les cessez-le-feu qu'on connaît ont toujours été marqués par des épisodes de recul, d'escarmouches, de tests, etc. Et beaucoup d'experts sérieux disent, au fond, ça s'appelle une sorte de négociation armée. On frappe, mais c'est pour renforcer sa position de négociation. Donc, il est très possible que les négociations ne soient pas totalement terminées. Il faut simplement rappeler qu'un MOU, c'est pas un traité. Donc, il n'engage que ceux qui veulent bien suivre ce à quoi ils se sont engagés dans le MEU. C'est juste du volontariat. Et d'autre part, il est suffisamment vague pour permettre d'être signé. Mais ensuite, évidemment, il y a des différences d'interprétation. Et là, visiblement, sur la partie des Trois d'Ormuz, on est dans une différence d'interprétation. Et donc, je vais faire trois observations pour qu'on comprenne. La première, c'est que sur ce détroit d'Ormuz, Iran et Amérique ont deux visions différentes. Pour les Américains, il s'agit de l'ouvrir tout de suite, de l'ouvrir totalement et de l'ouvrir sans péage. Et pour ça, ils étaient prêts à payer beaucoup. Et ils ont beaucoup cédé, au point qu'on a dit ils ont trop cédé. Mais bon, c'était au fond la demande de tous les pays du monde, y compris les Chinois, qui ont certainement dû pousser. Donc Trump a accepté de payer un prix élevé. Par contre, pour les Iraniens, leur objectif dans cette négociation du détroit, elle est très claire aujourd'hui, c'est s'approprier le détroit. Le détroit est à eux. C'est plus une voie de maritime internationale. Donc c'est un nouveau canal de Suez, si vous voulez. Il y aura avec péage, etc. Et pour ça, et c'est très intéressant d'avoir observé ce qui s'est passé. Il faut obliger tous les navires qui traversent le détroit de passer du côté de la côte iranienne pour qu'ils puissent agir. Or, la voie du milieu, celle qui est la voie internationale, la voie d'avant, elle a été supposée être minée, donc personne ne l'emprunte. Et donc l'alternative, et c'est ce que font les Américains, ils escortent les navires amis du côté de la voie omanienne. Et donc ça, les Iraniens ne le veulent pas et ils tirent. Il tire pour dire non, faut que ça passe sur. Donc ça, c'est assez clair. La deuxième observation, c'est que devant cette situation, Trump a vu rouge. C'est clair, là, qu'il a dit, j'ai beaucoup donné, au-delà de ce qui était presque raisonnable, je me suis presque humilié, et les Iraniens, ils veulent tirer sur la corde encore plus. Alors ça passe pas. Là, le négociateur soi-disant mondial revient et je crois que tout le monde a été surpris de voir que Trump réagisse comme ça. Mais Trump a compris que d'abord les Iraniens étaient divisés entre eux sur l'attitude à tirer. C'est clair que il y a des divergences dans la gouvernance. Et donc, il a à nouveau tiré une ligne rouge. Il a vu rouge et il a tiré une ligne rouge en disant non, ça ne passe pas. Et d'une certaine manière, en faisant ça, il protège l'intérêt du monde entier. Et il met en avant l'idée que ce que font les Iraniens, c'est une grosse erreur de jugement. Dans cette partie d'échec qui continue, là, ils ont fait une mauvaise manœuvre. Et dernière remarque, Oui, votre question est claire. Le MOU est mal parti. Non seulement Trump a beaucoup accordé, mais il a été jusqu'à se disputer avec les Israéliens pour pouvoir leur accorder tout ça. Et d'ailleurs, c'était au sujet du détroit d'Ormuz sur la survie du Hezbollah. Et inversement, les Iraniens ont mal jugé Trump. Ils ont cru qu'il était faible parce qu'il avait signé. C'est ce que disent toujours les Israéliens quand ils parlent aux Américains. Mais méfiez-vous de ce que les islamistes pensent de ceux qui cèdent. Ils sont faibles et ils tirent encore davantage sur la corde. Et donc là, Trump a décidé, en intervenant assez massivement et sérieusement, de rétablir sa position de négociation.
Alors, qu'est-ce que cela dit de la situation réelle, Daniel?
Écoutez, il y a trois éléments. La première, c'est que pour les Iraniens, il est clair que leur priorité absolue, c'est de garder toute leur capacité d'agression. Leur rêve, installé en 1979, d'imposer l'islam chiite d'abord à l'Iran, puis au Moyen-Orient, puis au monde entier, notamment en Occident, aux États-Unis et en Europe, il reste entier. Et pour ça, ils doivent avoir les outils pour le faire. Ils ont besoin du nucléaire. Ils ont besoin de tout ça. Ils ont en particulier besoin de détruire Israël, d'expulser les Américains du Moyen-Orient, d'exporter la révolution dans le monde, soit par le djihadisme, soit via les frères musulmans, par l'entrisme. Et vous savez que l'islam chiite s'est allié avec l'islam sunnite des frères musulmans pour entrer en Occident. Et quand on regarde l'état des sociétés occidentales, américaines, européennes, on se dit que si c'est ça leur but, ça a plutôt bien marché. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est persévérer. Ça, c'est leur priorité. La deuxième situation réelle, c'est que, au fond, seul Israël a tout compris. Il a tout compris depuis le début. Il dit l'Iran, c'est pas un pays comme un autre. C'est le fer de lance de l'islamisme mondial. Et l'islamisme mondial, c'est le totalitarisme du 21e siècle. C'est le nazisme du 21e siècle. Et ils sont pas tout seuls. Il y a le Qatar qui finance. Il y a la Turquie qui est prête à relayer ou à suppléer l'Iran si jamais l'Iran baissait les bras, sur la Turquie d'Erdogan. Donc clairement, si vous voulez, les Américains n'ont pas compris ça. Le seul à avoir compris, probablement, c'est Rubio et quelques aspects et quelques experts, mais la plupart des autres sont dans le déni. Et la preuve, c'est que même Trump traite avec le Qatar, traite avec la Turquie d'Erdogan. Ils sont prêts à leur vendre des F-35, ce qui est quand même, du point de vue israélien, assez délirant. Et donc, c'est ça le cœur du problème. C'est de comprendre ce que c'est vraiment l'Iran. Israël l'a compris. Les Américains, pas assez. Et même si Trump l'avait lui-même compris personnellement, il a contre lui MAGA, il a contre lui Vance, il a contre lui la gauche du Parti démocrate et il a contre lui l'opinion publique américaine. Donc c'est difficile d'aller plus loin. Dernier élément, les pays du Golfe ont aussi compris ce qu'était l'Iran. Eux, ils l'ont compris aussi. Ils l'ont compris et ils l'ont payé cher par les bombardements. Mais ils se sont divisés. Les Émirats et Bahreïn ont continué de se rapprocher d'Israël et des Américains, et tous les autres, ils ont peur, ils hésitent, ils cherchent désespérément un protecteur, ils doutent de la protection américaine, ils espèrent la bienveillance des Iraniens, ils espèrent que les Chinois pourraient faire quelque chose pour eux, donc ils ratissent large et ils n'auront pas grand-chose. Donc voilà la situation réelle.
Ouais. Pour conclure, Daniel, en une petite minute, quelles sont les perspectives et quels seront nos sujets de conversation, dans nos prochaines conversations, justement?
En deux mots, le MOU ouvrait deux négociations. Négociation 1, c'est sur le détroit, la 2, c'est sur le nucléaire plus tard. Il est clair que sur la 2, sur le nucléaire, aujourd'hui, peu de gens parierait sur qu'il y ait un accord. Il n'y aura pas d'accord. Les Iraniens veulent le conserver. Ils sont prêts à maintenir les sanctions pour conserver le droit de développer le nucléaire. En plus, même si Trump était prêt à fermer les yeux sur les missiles et sur les proxys, les Européens ont dit non. Nous, on veut que les missiles et les proxys fassent partie de la négociation. On est prêt à bloquer la levée des sanctions au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, pour les Iraniens, la probabilité d'un accord sur le nucléaire est très faible, d'autant plus qu'ils ne sont pas prêts à donner plus que ce qu'ils ont donné en 2015 à Obama et que Trump le refuserait. Donc ils ont fait l'impasse déjà sur la négociation sur le nucléaire et ils reportent tous leurs espoirs sur la négociation actuelle sur le détroit d'Ormuz, d'où leur tentation d'essayer d'obtenir beaucoup plus que ce qu'il avait été accordé. C'est pour ça qu'ils tirent sur la corde et c'est pour ça que Trump, ayant compris au moins ça, refuse de céder. Donc nous sommes dans une partie de bras de fer. Les Iraniens testent la volonté de Trump. Les Israéliens essayent d'aider Trump à résister parce que ça va dans leur sens. Il n'a plus de toutes ses forces et seul l'avenir dira si Trump saura résister assez longtemps.
Et on en parlera, hein, comme je le disais, dans nos prochaines conversations. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous ce lundi matin sur Radio Judaïka. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.